Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à Son Excellence M. Robert Mugabe, président de la République du Zimbabwe. Je l'invite à prendre la parole devant l'Assemblée.
Your Excellency, the
Excellence, Monsieur le Président de la 68e session de l'Assemblée générale des Nations unies, Monsieur John William Ash. Excellence, le Secrétaire général des Nations unies, Monsieur Ban Ki-moon. Excellence, chef d'État et de gouvernement. Mesdames et messieurs, camarades, chers amis, je souhaiterais commencer en félicitant chaleureusement Monsieur John William Ash à l'occasion de son élection en tant que président de la 68e session de l'Assemblée générale. Monsieur Ash, votre élection à cette fonction très haut placé est un hommage tout à fait justifié à vos qualités diplomatiques et personnelles dont vous avez fait preuve au cours des ans. Monsieur le Président, dans le monde entier, la paix et le développement sont restés des thèmes majeurs de notre époque. Les peuples du monde ont fait entendre leur voix en faveur de la paix, du développement et de la coopération et contre la guerre, la pauvreté et la confrontation. Ici, aux Nations unies, nous reconnaissons tous que la paix, la sécurité, le développement et les droits de l'homme représentent les piliers du système des Nations unies et les pierres angulaires de notre bien-être collectif. À cet égard, le thème de cette session, le programme de développement de l'après-2015 Plantons le décor, est tout à fait pertinent et arrive en temps opportun puisqu'il donne un nouvel élan à notre entreprise. En effet, pour atteindre les objectifs de développement convenus internationalement, y compris les OMD, et pour paver la voie après 2015, il faut unir nos efforts. Les Nations unies, en tant que centre de la coopération internationale, devraient mener la danse pour promouvoir ce développement. Monsieur le Président, il y a 13 ans, nos efforts à l'échelle mondiale ont été mobilisés derrière les objectifs du millénaire pour le développement. Et il nous reste moins de 1000 jours pour atteindre ces objectifs. L'examen et les exercices d'établissement de bilan nous montrent que si certes il y a eu certains résultats tangibles, il reste de nombreuses lacunes, des inégalités dans l'atteinte de ces objectifs. Dans le cas du Zimbabwe, nous avons fait des progrès pour atteindre l'accès universel à l'éducation primaire, pour la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et la tuberculose. Cependant, certains objectifs n'ont pas été atteints à cause d'un manque de capacité, surtout d'un manque de capacité financière, et notamment dans des domaines liés à l'éradication de la pauvreté et de la faim, la mortalité infantile, l'accès universel aux soins de santé reproductifs et aux soins de santé pour les mères, à la durabilité environnementale et à l'accès à l'eau potable et à l'assainissement. En tant que pays, nous nous sommes engagés a déployé des efforts coordonnés pour accélérer les progrès, terminer ce qui doit encore être terminé, atteindre les objectifs du millénaire d'ici à 2015. Tout objectif non atteint à cette date devrait être intégré dans le programme de développement de l'après-2015. Monsieur le Président, le Zimbabwe partage et appuie le consensus qui fait surface, selon lequel l'éradication de la pauvreté sous tous ses aspects devrait être le grand objectif du programme de développement après 2015. Éradiquer la pauvreté d'ici à 2030 peut sembler un objectif ambitieux, mais c'est un objectif que l'on peut atteindre si nous mobilisons nos efforts collectifs. En nous basant sur ce socle que représentent les OMD, le programme de développement pour l'après 2015 devrait aller au-delà du programme de développement social des OMD et atteindre une transformation structurelle de nos économies qui permet d'arriver à une croissance durable sans exclusion. Nous souhaiterions une modification qui permettrait d'industrialiser, de créer des emplois décents qui changeraient sur le plan qualitatif la vie quotidienne de nos citoyens. Nous sommes bien déterminés à moderniser nos infrastructures et à garantir l'accès à l'énergie durable pour tous, à garantir la sécurité alimentaire et la nutrition. Cependant, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas agir ici de manière isolée sans nos partenaires. Dans le même esprit, nous appuyons les appels visant à établir des priorités, à considérer comme une priorité l'égalité homme-femme, les OMD liés à la santé, à l'éducation et à la durabilité environnementale dans le programme de développement de l'après 2015. Entre autres, il s'agit de thèmes tout à fait essentiel dans notre quête pour atteindre le développement durable pour toute notre population. Monsieur le Président, les objectifs ambitieux de la Charte des Nations Unies dans le domaine économique ne seront pas atteints à moins que tous les États membres travaillent de concert, honnêtement, sérieusement, pour relever les défis auxquels font face les pays en développement pour arriver au développement et notamment atteindre les objectifs du millénaire pour le développement. Il est donc crucial que notre débat examine ce qui a été le chaînon faible, les moyens de mise en œuvre. Il faut comprendre que, outre les efforts nationaux, une aide internationale tangible, un environnement économique international propice sont essentiels si nous voulons que les OMD soient atteints d'ici à 2015 et particulièrement en Afrique. Il est donc tout à fait crucial d'honorer les engagements qui ont été pris pour appuyer l'Afrique lors de différentes conférences et dans différentes instances. Les Nations Unies devraient suivre le respect de ses engagements. Monsieur le Président, le Zimbabwe appuie la réforme des Nations Unies afin de renforcer le rôle central pour promouvoir le multilatéralisme, afin que l'organisation soit efficace pour relever les défis d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes convaincu que la réforme permettra de renforcer la capacité de l'organisation pour pouvoir pleinement promouvoir et mettre en œuvre les buts et principes de la Charte des Nations Unies et permettra d'améliorer la prise de décision démocratique. À cet égard, les réformes des actions socio-économiques des Nations Unies revêtent une importance capitale pour nous. Notre foi profonde dans la coopération multilatérale signifie que nous plaçons beaucoup d'espoir dans la capacité du système des Nations Unies à parvenir à une coopération développement efficace. La transformation démocratique de l'architecture du système financier international est de toute première importance, comme la réforme en profondeur du système de commerce international. Les modalités de commerce ont souvent pesé beaucoup trop longtemps sur les pays en développement. Monsieur le Président, le Zimbabwe appuie les efforts en cours visant à revitaliser l'Assemblée générale, qui est l'organe le plus représentatif des Nations unies. Nous sommes d'avis que l'Assemblée générale devrait être en première ligne pour établir le programme mondial et redorer son blason et ses prérogatives qui souvent ont été grignotées par d'autres organes. Nous ne pouvons pas accepter des situations où le Conseil de sécurité des Nations Unies empiète de plus en plus sur des terrains qui traditionnellement faisaient partie des compétences de l'Assemblée générale, notamment dans le domaine de l'établissement de normes. En effet, certains événements récents ont montré que certaines décisions officielles prises par l'Assemblée générale, ou plutôt du Conseil de sécurité, a fourni un camouflage à des forces néo-impérialistes d'agression qui tentent d'intervenir militairement dans des pays plus petits afin de provoquer des changements de régime et afin de mettre la main sur leurs possessions. Ce fut le cas en Libye où, en invoquant la protection des civils, l'OTAN a déployé ses forces dans une mission afin d'éliminer Kadhafi et sa famille. Une campagne similaire a été entreprise en Irak par les forces de Bush et de Blair en invoquant de manière erronée la nécessité de supprimer les armes de destruction massive que Saddam Hussein n'avait jamais possédées. Nous nous félicitons du rôle central que les Nations Unies devraient jouer pour renforcer le multilatéralisme plutôt que l'unilatéralisme. À cet égard, nous applaudissons les consultations, les négociations qui ont été réalisées pour visant à détruire les armes chimiques en Syrie. Mon pays exprime toute sa reconnaissance à la Chine et à la Russie pour leur position de principe concernant la Syrie. Nous sommes convaincus que le peuple syrien bientôt pourra mener un dialogue pour discuter de la paix et des réformes politiques nécessaires. Ces pays occidentaux qui poursuivent l'hégémonie alors qu'ils prétendent être des avocats de la démocratie, eh bien, il faut leur résister. Monsieur le Président, pour l'Afrique, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies est un problème qui aurait dû être résolu depuis longtemps. Le caractère peu représentatif et tout à fait anachronique du Conseil de sécurité doit être modifié. Combien de temps l'Afrique doit-elle encore attendre le droit de pouvoir jouer un rôle pivot au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, alors que celui-ci prend des mesures concernant des conflits en Afrique, précisément? Le Conseil de sécurité doit être plus représentatif, plus démocratique, plus transparent. Il doit rendre des comptes. Il doit être plus accessible aux États membres de manière plus large concernant ces décisions, pour que ces décisions aient davantage de légitimité. Le cas de l'Afrique, concernant la correction des injustices historiques, le fait qu'elle n'a pas été représentée comme il se doit dans la catégorie des permanents et sous-représentée dans la catégorie des non-permanents, eh bien, ce cas a été illustré très clairement dans le consensus d'Isiluini qui est extrêmement équitable et juste. Le Zimbabwe continue fermement d'appuyer le consensus d'Isiluini qui est en fait une demande. Monsieur le Président, le Zimbabwe condamne dans les termes les plus forts l'utilisation de sanctions économiques unilatérales en tant qu'instrument de politique étrangère pour tenter d'obtenir un changement de régime. Donc, les sanctions économiques illégales imposées au Zimbabwe par les États-Unis et par l'Union européenne violent les principes de base de la Charte des Nations Unies concernant la souveraineté d'un État et la non-ingérence dans les affaires intérieures d'un État souverain. De plus, ces sanctions illégales continuent d'entraîner des souffrances humaines et des grands dégâts économiques pour tous les Zimbabwéens. Aux yeux de notre peuple, ces sanctions constituent une forme d'attitude hostile, une violence à leur égard, pour le simple crime d'avoir entrepris un programme de réforme foncière grâce auquel les terres ont été remises aux Zimbabwéens majoritaires qui n'avaient pas de terres. Notre petit pays pacifique est menacé quotidiennement par des grandes puissances qui ont une soif de domination et de contrôle d'autres nations et qui ont de nombreuses ressources. Honte, honte, honte aux États-Unis d'Amérique. Honte, honte à la Grande-Bretagne et à ses alliés qui ont continué d'imposer des sanctions illégales à l'encontre de notre peuple. Le Zimbabwe est pour les Zimbabwéens et les ressources de notre pays sont pour notre population. De grâce que ces pays lèvent ces sanctions injuste et illégale à l'encontre de mon pays pacifique. Si ces sanctions avaient pour but d'entraîner un changement de régime, eh bien, les résultats des dernières élections ont clairement montré que ces sanctions ne peuvent pas atteindre ces objectifs de changement de régime. Monsieur le Président, on nous prêche quotidiennement les vertus de la démocratie. C'est ce que l'Occident nous répète sans arrêt. Le Zimbabwe a pris les armes précisément pour arriver à la liberté et à la démocratie, car ces éléments n'existaient pas durant la période de colonisation britannique. Et pourtant, nous sommes punis maintenant par les États-Unis, par le truchement de la loi de reprise économique et de démocratie du Zimbabwe qui a été adoptée en 2001 pour tenter d'obtenir un changement de régime dans mon pays. Maintenant, cette tentative pleine de malice pour tenter de persécuter sans relâche notre petit pays pacifique s'est illustrée une fois de plus par le rejet des États-Unis des résultats des élections pourtant complètement démocratiques et équitables. Des élections qui se sont tenues le 31 juillet, alors même que ces élections ont été considérées par l'Union africaine et par toutes les organisations régionales comme étant équitables. Il apparaît ainsi que lorsque les États-Unis et leurs alliés parlent de démocratie et de liberté, eh bien, ils ne le font qu'en utilisant des termes très relatifs. Le Zimbabwe refuse d'accepter que ses détracteurs occidentaux aient le droit de modeler la démocratie et la liberté pour lui. Nous avons fait le sacrifice ultime. Nous avons payé le prix, un prix très élevé pour obtenir la paix et l'indépendance et la liberté au Zimbabwe. Et nous avons bien l'intention de ne jamais laisser s'échapper notre souveraineté. Nous restons maîtres de notre destin. Et comme nous l'avons dit à maintes reprises, haut et fort, le Zimbabwe ne sera plus jamais une colonie. Merci beaucoup.